le 7-9 sur France Inter.
Votre invité, Alexandra Ben Saïd, est éditorialiste au New York Times.
Thomas Friedman, bonjour, good morning.
Great to be with you.
Thomas Friedman, on va commencer, si vous voulez bien, par quelques questions. Trump, avant de parler de votre livre. Oui, le FBI enquête sur l'influence de la Russie dans l'élection de Donald Trump. Qu'est-ce que ça change ?
Well, it changes two things.
Eh bien, ça change deux choses. Tout d'abord, c'est que ça montre que le président est un menteur quand il dit que le président Obama a fait écouter son téléphone, ça s'est jamais passé, et ça aura des implications à très long terme. Et l'autre fait que ça met à la lumière des choses sur lesquelles on se posait des questions. Le FBI enquête sur le fait s'il y a eu une collusion de la campagne Trump avec les Russes pour gagner l'élection.
Mais est-ce que ça va faire changer d'avis les électeurs, les plus de 60 millions d'électeurs de Trump? Après tout, ça, ils s'en fichent. Je vous leur avais dit des vérités, vous les journalistes américains, qu'ils n'ont pas écouté. Ils ont voté pour un mur, ils ont voté pour du protectionnisme, des usines et des emplois.
Il
est trop tôt pour le dire. On n'aura pas d'autres élections avant 4 ans. Il faut se souvenir que, cher Alexandra, l'élection de Trump, c'était une éclipse lunaire et solaire. Tout devait y passer. Le FBI, les Russes, Clinton, et même avec tout ça, il a gagné par 100 000 voix. Donc, moi, je ne pense pas pouvoir changer l'état d'esprit de tous les électeurs de Trump. Mais il suffit d'un petit nombre pour changer les choses.
Est-ce que vous croyez que dans 4 ans, Trump aura changé la planète ?
I sure hope not.
Bah, j'espère que non. Parce que sa vision du monde est, d'après moi, ce n'est pas une vision de l'Amérique d'abord, mais comme un de mes amis l'a dit ce matin, c'est les États-Unis seuls. Et ce n'est pas une vision que j'aime.
Une vision de l'Amérique protectionniste, isolée. Vous avez un petit peu regardé le débat télévisé, Thomas Friedman, éditorialiste au New York Times, hier soir dans votre chambre d'hôtel.
J'ai regardé le débat, mais je ne comprends que le langage corporel.
Est-ce que vous vous êtes fait une idée avec ce langage corporel ? Et je sais, vous comprenez un peu plus de français que ce que vous me dites.
Bah, j'en comprends suffisamment pour savoir que votre débat, Alexandra, ressemble beaucoup au nôtre. Ce n'est plus la gauche contre la droite, c'est ouvert contre fermé. Qui croit en la France avec un rôle plus important dans le monde ? Qui croit à un avenir pour la France, pour une France plus fermée ? Je n'ai pas besoin de comprendre le français pour apprécier le langage corporel.
Donc vous voyez ce point commun entre la société française et la société américaine, ce besoin de protection énorme des électeurs. Pourquoi un tel malaise dans nos sociétés occidentales riches ?
Eh bien, c'est de ça que parle mon bouquin. On est au milieu de 3 accélérations géantes en même temps, avec les 3 plus grosses forces du monde en ce moment, que j'appelle le marché, la globalisation, la mère nature, le changement du climat, et la loi de Moore, le changement technologique. Et tout accélère en même temps. C'est comme un cyclone. En fait, mon bouquin est basé sur une chanson. Ça s'ouvre, voilà, et ça commence à chanter comme, vous savez, quand on ouvre une carte de vœux pour l'anniversaire, ça chante une petite chanson, voilà. Ça s'appelle
E-I-E.
Voilà, vous pouvez danser au milieu d'un cyclone, mais seulement si vous êtes dans l'œil du cyclone. Et je crois que la guerre aux États-Unis, la guerre en France, la guerre des mots, est entre le mur et l'ouverture. Trump, Le Pen vendent un mur, et mon bouquin, c'est un manifeste pour les gens qui sont dans l'œil du cyclone. Ça bouge avec le cyclone, ça en tire l'énergie, mais ça crée une communauté saine où les gens peuvent se sentir reliés, protégés et respectés. Et je crois que c'est ça la lutte.
Alors, vous parlez de ce maelstrom. On va expliquer parce que vous le démontrez très très bien. C'est ça le Pulitzer, en fait. C'est l'œil pertinent du journaliste sur les transformations du monde. Ça s'est joué en 2007. Ces accélérations multiples, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'on n'a pas vu ?
Oh my God.
Ah mon Dieu. Eh bien, 2007 sera compris à l'avenir comme véritablement le point, le grand tournant depuis Gutenberg.
Le 15e siècle.
C'est l'iPhone qui est arrivé, le téléphone portable qui est arrivé en 2007. Facebook est devenu mondial en 2007. Twitter est devenu mondial en 2007. Hadoop a créé vraiment des logiciels énormes en 2007.
Google released Android.
Google a fait sortir Android.
Google bought YouTube.
Google a acheté YouTube.
IBM started Watson.
IBM.
The first cognitive computer.
A commencé le premier ordinateur cognitif, à capacité cognitive.
Amazon started Kindle, the first e-book.
Amazon a commencé à vendre Kindle, le premier livre électronique.
Airbnb started.
Yeah, c'était le début de Airbnb.
I can go on for half an hour.
Je peux continuer pendant une demi-heure comme ça.
Et c'est ça qui crée de grands désordres. Vous dites des désordres aussi bien politiques que géopolitiques dans les entreprises. C'est ça qui nous attrape. C'est ça le grand malaise.
Exactement, Alexandra, parce que ce qui s'est passé, c'est que nous avons complètement raté ça. Pourquoi? Parce qu'il y a eu 2008. Exactement lorsque notre technologie était en train de s'accélérer. Comme vous savez, comme les tapis roulants, ça passe de 5 à 15, à 20, à 30 km/h. Eh bien, la politique s'est gelée. En raison de la crise de 2008, tellement de gens des classes moyennes en France, aux États-Unis, ont été pris dans cette dislocation.
Alors vous dites, maintenant ça va vraiment trop vite, l'homme ne peut pas s'adapter. Si la solution, ça n'est pas le mur, Thomas Friedman, éditorialiste au New York Times, quelle est-elle? Dans votre livre, vous essayez de nous rassurer. Un exemple.
Il n'y a qu'une seule grande solution. Quand moi j'ai grandi dans le Minnesota, dans les années 50 et 60, il y avait un représentant au Congrès qui disait, si vous êtes un homme blanc au Minnesota, vous devez avoir un plan pour rater. Il y avait tellement de gens, des gens qui avaient des capacités moyennes, vous savez, des emplois moyennement qualifiés. Vous pouviez avoir véritablement des salaires élevés et des capacités vraiment moyennes. Aujourd'hui, ça n'existe plus, ça. Il n'y a plus d'animal tel que celui-là dans le zoo. Il y a des gens qui ont des grandes capacités et des grands revenus. Petits revenus, petites capacités, mais rien au milieu. La seule réponse, c'est l'apprentissage tout au long de la vie. Formation tout au long de la vie.
Donc,
il faut un plan pour réussir. Et il faut absolument se mettre à jour chaque semaine.
Mais Thomas Friedman, ça vaut si on travaille dans une grande entreprise, pas si on est un petit artisan. On va être touché par le numérique. Allez, en quelques mots.
Et c'est la raison pour laquelle la communauté est tellement importante. Je pense que, véritablement, ce n'est plus l'État-nation qui est important. Ce n'est plus la famille qui est trop faible. C'est la communauté saine. C'est l'œil dans le cyclone.
Et pour explorer la communauté saine, ça se passe dans Merci d'être en retard, survivre dans le monde de demain. C'est publié aux éditions Saint-Simon. Merci Thomas Friedman d'avoir été avec nous ce matin.
C'était un plaisir.
Merci Alexandra Ben Saïd, merci à Michel Zotowski pour la traduction. Évidemment, il est 8h-3 sur Inter.